Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Avant-dernière fin de semaine complète de septembre 2025, ici Alex Bergeon. Et bienvenue au deuxième service du Réchaud. On vient de dire que le temps passe pas vite dans le bureau, puis je m'en allais dire novembre. Fait que... Bonjour! Bienvenue à cette nouvelle émission du deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. Alex Bergeon pour la prochaine heure. Content de vous retrouver cette semaine. Épisode 502, 362. Et encore une fois... Ce serait un euphémisme de dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine. En fait, on dirait que tout est arrivé cette semaine. Et... Ben, à commencer. Par le fait qu'on a eu... Les équipes à l'œuvre au courant de la nuit, au courant de la soirée d'hier, qui étaient déjà à installer les pancartes électorales parce que oui, nous sommes en campagne électorale à nouveau. Il y aura des municipales dans les prochaines semaines. À tout le moins dans les principales villes, s'il n'y a pas d'acclamation. Parce que ça arrive aussi que certaines mairies seront déjà données gagnantes. Si ce n'est pas déjà fait, ça sera fait au courant des prochains jours. Mais ce sont, dans les 45 prochains jours, 1104 maires qui sont en élection d'ici le 2 novembre. Et un peu comme prévu, ou en tout cas, je sais pas à quel point c'était prévu, parce que ça fait quand même 6-7 ans, mais c'est vrai que c'est comme c'est peut-être la deuxième élection. Élection municipale que dans mon secteur de Roque-Forest-Saint-Élie mélangé. Parce que des fois au fédéral, on est avec Roque-Forest, des fois au provincial, on est avec Saint-Élie. Et sur ma rue, il y a les pancartes de tous les partis. Ça, c'est... Tout le monde a fait ça égal. Ça, je les salue. Mais les deux équipes de Sherbrooke, Sherbrooke Citoyen, puis... comment qu'il s'appelle? Espoir Sherbrooke, c'est ça? Ah, oh, c'est pas gentil. J'ai oublié le nom du deuxième parti à Sherbrooke. Vision Sherbrooke. C'est parce que c'est tout le temps un mot différent. Mais bon... C'est ça, ils ont mélangé les pancartes. Parce que ma rue, en tant que telle, appartient à Saint-Élie, au municipal. Mais la moitié des affiches était celle de Rock Forest. Ça m'a fait rire ce matin. Mais voilà, ce sera pas la première fois. On le voit aussi au fédéral, à l'intersection Bourque et pour aller au cinéma Galaxy. Vu que c'est vraiment là la limite entre Sherbrooke et Compton... Parce que Compton ratisse très large au fédéral dans la circonscription de Sherbrooke. Mais dans la ville de Sherbrooke, la circonscription de Compton ratisse large et la limite se fait là. Fait que c'est aussi le coin de rue où toutes les pancartes se mélangent pour être certain que tout le monde soit à bonne place. Et là, c'est ma rue où je reste en ce moment qui est comme le baromètre. Mais tout le monde s'est trompé égal. Fait que ça va. Il y a les deux pancartes de tout le monde. C'est pas plus un que l'autre. Donc, les campagnes sont parties. Vision Action Sherbrooke et Sherbrooke Citoyen, les deux partis enregistrés, ainsi que les candidats indépendants. Parce qu'à la mairie, pour Sherbrooke, ils sont quatre à se présenter. dont l'ancienne députée de Compton-Stanstead, qui se présente à la mairie de Sherbrooke. Et à Québec, disons que ça va brasser aussi, ou en tout cas les premiers jours d'avant-campagne, je sais pas comment on peut les appeler, mais en tout cas la veille du lancement de la campagne. Disons que pour Sam Ahmad, c'est difficile. C'est difficile, comme dirait un certain premier ministre. En fait, toute sa pré-campagne n'a pas particulièrement bien été. Mais ça, c'est pas juste Sam Ahmad. Stéphane Lachance, ancien candidat du Parti conservateur d'Éric Duhaime, il s'était présenté au fédéral aussi, si je me trompe pas, pour Pierre Poilievre. Puis là, ben, il est rendu à la mairie parce qu'il ben, a tout perdu les autres. Il s'est entouré, les deux se sont entourés de candidats questionnables, là, qui ont fait de la fraude, qui ont fait des commentaires peu rassurants sur les réseaux sociaux, sur les minorités, sur des trucs qui se répètent très mal, mettons. Et Sam Ahmad n'a pas été le seul à avoir des candidats questionnables. Il y en a qui ont été expulsés aussi, d'ailleurs, avant même le lancement de la campagne. Il a notamment utilisé l'intelligence artificielle, ou en tout cas, un bénévole de l'équipe de Sam Ahmad qui avait accès au Facebook a mis en ligne une vidéo avec une chanson générée par l'intelligence artificielle pour chanter « Leadership Québec ». Parce que peut-être ce qui s'était dit quand Maxime Bernier avait sorti sa toune de campagne électorale il y a au moins 10 ans déjà, ben, il s'était dit « Leadership Québec devrait aussi avoir sa chanson rythmée ». Mais c'est ça, c'était fait aussi avec un PowerPoint probablement généré automatiquement par une application quelconque parce que c'était très cheap et ça a été retiré en dedans de 3 heures parce que ben, c'est ça, c'était une chanson générée par intelligence artificielle. Donc en plus, on contournait de demander à quelqu'un de chanter les louanges de Sam Ahmad. Puis, qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Ah oui, ben, les vidéos TikTok qui avaient été également mises en ligne avec des images prises ici et là, au hasard, sur Internet, donc pour parler de la congestion monstre à Québec, pour justifier le troisième lien, on utilisait des images très précises de l'autoroute d'Équerry à Montréal pour, je le rappelle, parler de la situation de la congestion monstre à Québec. Donc voilà, tu sais, c'est tous ces petits faux pas-là qu'il y a eu tout au long ou avant de commencer la campagne de Sam Ahmad officiellement aujourd'hui. Et la dernière en liste, et à quel point c'était vraiment parce que Sam Ahmad a encore de la misère à parler français aujourd'hui, même si ça fait 50 ans qu'il est au pays. Il aurait dit à Claude Villeneuve... Claude Villeneuve a rapporté que Sam Ahmad aurait peut-être tenté de l'intimider, mais évidemment, ça dépend à qui qu'on demande. Mais c'est ça. Donc, la manière de s'exprimer de Sam Ahmad avec Claude Villeneuve n'était pas particulièrement... encourageant, disons ça comme ça. Là, évidemment, Sam Ahmad exige des excuses de Claude Villeneuve parce que c'est pas vrai que c'est ça qu'il voulait dire. Essentiellement, il disait « Fais attention, t'as deux belles petites filles. » Un peu sorti de son contexte, ça peut être un peu étrange, c'est sûr. « Je n'ai pas nécessairement envie d'aller là ce matin, mais je vais m'assurer, parce que je l'ai dit à certaines personnes, moi, Sam Ahmad, par deux fois, il m'a dit « Fais attention à tes critiques contre moi. » Voici la citation. « Fais attention à tes critiques contre moi parce qu'oublie pas que tu as deux belles petites filles. » Ce qui peut sonner très... ce qui pourrait sonner menaçant. Tu sais, dans un contexte où on se rappellera que les scandales de la corruption du Parti libéral, on a appelé ça la mafia libérale. Fait que tu sais, loin de moi l'envie de faire des mauvaises amalgames, mais tu sais, d'avoir un monsieur comme Sam Ahmad qui fait partie de cette ancienne équipe libérale-là qui dit « Fais attention à tes deux petites filles », c'est un peu étrange. Donc, Claude Villeneuve n'a pas aimé ça. Lui-même le disait, c'est ridicule. On n'est pas dans Gangs of New York. On n'est pas dans un film de mafia. Donc, on va adoucir le ton. Ce que Sam Ahmad aurait voulu dire, selon Sam Ahmad, c'était qu'il fallait augmenter le niveau de débat. d'arrêter d'être dans les attaques personnelles, dans les attaques directes, donc d'augmenter le niveau de débat et de faire attention au monde qui nous entoure, à nos familles, comme tes deux belles petites filles, Claude Villeneuve. Mais tu sais, déjà là, de mêler les enfants là-dedans, c'est un peu particulier. Fait que c'est pour ça que Claude Villeneuve est comme, mais là, lâche mes enfants, tu sais, en voulant dire, c'est comme... C'est pas un argument, là. Fait que, ben, c'est de un, puis c'est sûr que, bon, des fois, le ton de sa mamade, oui, effectivement, il peut sonner pas tout à fait ce qu'il veut vraiment dire. Fait qu'à quel point c'est réellement ça, c'est une erreur de traduction dans sa tête. Puis c'est juste vraiment... Ben non, évidemment, il menace pas les enfants de Claude Villeneuve, là, ça serait surprenant, là. Mais tu sais, ça reste quand même que de mélanger les enfants d'une campagne électorale municipale... Je sais pas, parle-en pas, tout simplement. Donc, la chicane est pognée du côté de Québec, mais celui qui sera content que les autres se chicanent, c'est Bruno Marchand. Parce qu'en ce moment, du côté de Québec, parce que justement, le vote anti-Bruno Marchand et le vote anti-tramway se divisent entre Sam Hamad et Stéphane Lachance du Parti conservateur, qui est maintenant Respect citoyen, quelque chose de même. Puis, Respect citoyen, c'est ça. Puis, ben, comme ce vote anti-tramway-là et ce vote anti-marchand-là se divisent entre ces deux-là, ben, ça fait surtout en sorte que Bruno Marchand, lui, il peut marcher au-devant de tout le monde et il n'y aura pas tant de problèmes que ça lors de son élection. Claude Villeneuve, lui, sauf erreur, se présente pour l'ancienne bannière du maire Labeaume. Et lui, ben, fait sa petite job, fait ses affaires de son côté. Mais peut-être aurons-nous la surprise encore une fois, parce qu'on se souviendra qu'à la dernière élection municipale, les grands réseaux avaient prononcé la prédécesseur de Claude Villeneuve comme étant la grande gagnante de la mairie de Québec. On avait été à son discours de victoire. Même Patrice Roy s'était entretenu ici à RDI avec la nouvelle mairesse temporaire de Québec avant que, ben c'est ça, les votes de certaines parties de la ville n'avaient pas été comptabilisés, que finalement, ben c'était Bruno Marchand qui était gagnant. Donc, il y a eu cette grande confusion-là à la mairie de Québec, c'était en 2021. Mairesse pendant 3 heures. C'était tout ça le titre des articles à ce moment-là, mais c'est ça, ça n'avait pas été glorieux. Mettons que Marie-Josée Savard, ben oui, comment l'oublier, Marie-Josée Savard, qui avait perdu par à peu près 700 voix. Et c'est ça, c'est que ces 700 voix-là étaient arrivées un peu plus tard, en fin de soirée, et pour vanter les réflexes de Roxane, notre ancienne directrice de l'information à mon époque, à Québec, elle avait flairé un peu, peut-être qu'il fallait attendre avant d'annoncer un gagnant à la mairie. Et grâce à elle, on a peut-être été la seule radio à Québec à ce moment-là à ne pas déclarer Marie-Josée Savard gagnante. Donc, salutations Roxane. Mais voilà, donc... Ça m'avait fait sourire, mais c'est ça. C'est qu'on. Il y avait eu une espèce de grosse confusion. C'est ça que même elle avait prononcé son discours de victoire, même s'il y avait encore des 100, 200 de différence entre les deux. Fait que c'était pas une vraie grosse tendance qui faisait en sorte que c'était vraiment confirmé pour l'équipe Labeaume, ou plutôt l'équipe Marie-Josée Savard à ce moment-là. Mais. Voilà, donc il faudra faire attention. Donc, comme je le disais, ici à Sherbrooke, ben, c'est ça, on a 4 candidats. Reyes Kibonge, qui est le maire, le maire suppléant sortant, là, ça dépend qui qu'on. Ben, ça a été compliqué là, depuis le départ d'Évelyne Baudin, la véritable mairesse sortante, mais qui a eu plusieurs remplaçants, remplaçantes dans sa chaise. Reyes Kibonge qui prend sa place au sein du parti. Du Parti de la Ville. C'est Guillaume Brien, le chef de Vision Action Sherbrooke, qui, lui, est un nouveau venu, même s'il est très connu dans le municipal à Sherbrooke. Il est impliqué dans beaucoup de causes, beaucoup d'organismes. Donc, peut-être que ça lui servira lors de sa campagne. Vincent Boutin, qui est un ancien conseiller municipal qui, lui, se présentait dans le district de 4 saisons, là, j'y vais vraiment de mémoire, qui se présentait dans 4 saisons, oui, et qui maintenant se lance à la mairie seule. Et Marie-Claude Bibeau, comme je le disais tout à l'heure, qui est l'ancienne députée de Compton-Stanstead, qui se présente elle aussi à la mairie. Pourquoi elle aussi? Parce qu'elle est également la conjointe d'un ancien maire de Sherbrooke. Donc, est-ce qu'on aura un premier couple de maire à la ville de Sherbrooke? Sait-on jamais? Mais voilà, donc pour nous, c'est 4 départs pour la ville de Sherbrooke. Québec, je pense, c'est 5 partis qui s'affrontent en plus des indépendants. Je vais à un niveau de mémoire. Mais c'est Jackie Smith que j'oubliais dans cette liste-là à la mairie de Québec. Donc les principaux noms, bien qu'il y ait d'autres indépendants que je suis moins familier avec. Mais voilà, donc c'est parti pour 45 jours, élection municipale à travers la province, j'allais dire le pays, mais c'est plutôt la province. Et notamment, la ville de Québec sera surveillée pour la survie du tramway, même si Jonathan Julien, nouveau ministre du Transport et député de la région de la Capitale-Nationale, a confirmé que le tramway n'allait pas être arrêté, même à la demande de Sam Ahmad, parce qu'il voulait que les gens qui travaillent en ce moment sur le tramway se tournent les pouces pour les 45 prochains jours parce que, si Sam Ahmad gagnait la mairie, lui, il veut l'arrêter jour 1. Jonathan Julien a confirmé et a répété que non, le tramway est parti, on va le faire et arrêtez de nous achaler avec ça. Donc, à suivre pour la Ville de Québec, à suivre pour Sherbrooke, à suivre pour tous les autres grands centres également. Montréal aussi sera à suivre pour qui succédera à Valérie Plante, qui, elle non plus, ne demandait pas de nouveau mandat. Donc, si son équipe restera en place ou s'il y aura une nouvelle équipe à la place de Valérie Plante. Compte à pause, au retour, la suite de cette actualité de cette semaine, on va rester au gouvernement provincial parce que départ fracassant, s'il y en avait un à avoir, c'était celui de la députée de Rimouski hier, qui a tiré sur à peu près tout. Et évidemment, François Legault, ce matin, rejette complètement les accusations, les affirmations de Maïté, la députée de Rimouski. On en parle tout de suite après sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. De retour sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. Donc, comme je le disais, ce jeudi, la députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, j'ai oublié son deuxième nom de famille, mais voilà, Vézina a démissionné de la CAQ, ou en tout cas a démissionné de François Legault. Et la nuance est très importante parce que, c'est ça, dans son discours de départ, hier après-midi, elle s'en est pris quand même assez ouvertement à François Legault lui-même en disant qu'elle n'avait plus la confiance en le chef de la CAQ, sans pour autant tourner le dos à la Coalition Avenir Québec en tant que telle. Donc, si Éric Duhaime pensait aller gratouiller un autre transfuge, peine perdue pour lui, elle a très clairement dit que si François Legault n'était pas le chef de la CAQ à la prochaine élection, elle pourrait envisager de se présenter encore pour la Coalition Avenir Québec dans Rimouski, sinon elle se présenterait peut-être de manière indépendante, parce qu'elle croit que la coalition a sa raison d'exister, mais que François Legault n'est peut-être pas le meilleur leader en ce moment pour la formation. Et ça confirme évidemment les soupçons de beaucoup d'analystes politiques en ce moment. Et en même temps, ça donne peut-être une petite indication du climat en ce moment à l'intérieur du caucus caquis, même si il y a eu l'espèce de petite tentative avec les 10-12 députés de la CAQ qui sont sortis hier après le départ de Maïté dans les corridors de l'Assemblée nationale. Là, en petit groupe, sont allés voir les journalistes. Puis non, nous sommes derrière François Legault. On comprend qu'elle est déçue qu'elle soit plus ministre, mais là, il ne faut pas exagérer non plus. On est 80, là, on s'est rendu combien, là? 85, 84. Le code commence à se défiler un peu rapidement, tu sais, parce qu'en plus, François Bonnardel n'a pas été vu de la semaine depuis que lui aussi a perdu sa job. Il aurait pris des vacances, mais on sait qu'il boude dans son coin. Fait que, tu sais, il y a comme en ce moment beaucoup de tensions. On va dire ça comme ça, puis ben la question continue à se poser, parce qu'en ce moment, comme je le disais la semaine dernière, et les derniers sondages aussi continuent à le montrer de la sorte, François Legault, pendant la pandémie, était le premier ministre le plus apprécié, le plus populaire à travers le Canada au grand complet, avec une cote d'approbation au-dessus des 60, c'est pas 70% d'approbation. Et aujourd'hui, il est le dernier en queue de peloton avec à peine 22% d'approbation à l'échelle nationale. Et le dernier sondage qui ferait le meilleur premier ministre parmi les 5 chefs en ce moment, Paul Saint-Pierre est premier avec à peine 39. La deuxième place est à je ne sais pas avec 30. Puis après ça, c'est Pablo. Même là-dessus, François Legault n'est pas le choix des Québécois. Et ça, d'ailleurs, François Legault a arrêté de le dire, parce que souvent, ce qu'il répétait pour dire qu'il allait se présenter à la prochaine élection, c'était qu'il allait sentir qu'il allait avoir l'approbation des Québécois et qu'il allait avoir la santé pour se représenter. Là, il fait juste dire « Non, je suis pas dans les concours de popularité, moi. Je suis là pour travailler pour les Québécois. C'est plus important, ça. » Sauf qu'à quelque part, une élection générale, habituellement, celui qui gagne, c'est pas le plus travaillant, c'est le plus populaire. Donc, cette ligne-là de communication est pas particulièrement convaincante, on va dire ça comme ça. Et puis, voilà. Donc, pour revenir à Maïté Blanchette-Vézina, elle a claqué la porte parce que, justement, entre autres, elle a perdu son ministère des Ressources naturelles et des forêts. Elle disait qu'elle avait été une bonne trooper, qu'elle avait été... qu'elle avait pris les coups pour le parti, mais qu'elle ne comprenait pas la perte de son titre au remaniement ministériel. Et comme elle l'a dit, un chef doit savoir reconnaître le moment de préparer la relève pour assurer la continuité et la vitalité de ce qu'il a bâti. J'invite donc le premier ministre à réfléchir sérieusement à ce plan de relève. Elle ne dit pas que François Legault doit partir, mais elle le suggère très fortement qu'il faudrait qu'il commence à regarder ses options. C'est donc après une dure réflexion qui me paraît aujourd'hui plus cohérent et fidèle à mes convictions de poursuivre mon mandat comme députée indépendante. Évidemment, il y avait des rumeurs qu'il l'envoyait à la mairie de Rimouski, mais elle a confirmé qu'elle n'allait pas déclencher de partiel, elle aussi, à 500 000, 1 million pour Rimouski. Elle allait finir son mandat pas jusqu'à l'année prochaine. C'était la première fois que Rimouski faisait l'élection de quelqu'un de la CAQ parce que les précédentes élections, c'était le Parti québécois qui l'emportait à Rimouski. Mais il faut dire qu'avant elle, le député, c'était Harold Lebel et Harold Lebel a été reconnu coupable depuis. Mais donc le candidat successeur à Harold Lebel, avais-tu fait la campagne de 2021? Il a été accusé après, il me semble. Mais reste quand même qu'elle avait la popularité de François Legault pendant la pandémie aussi, au sortir du plus gros de la pandémie, lorsque les élections avaient eu lieu. La cote de popularité de François Legault était très bonne, donc il avait remporté des circonscriptions qui, normalement, n'auraient pas dû remporter, comme Rimouski, qui vote PQ, normalement, parce que normalement, le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, ça vote Parti québécois très fortement. Ça sera le cas, d'ailleurs, à la prochaine élection. Elle a notamment reproché, et elle a raison de le faire, parce que ça s'observe très facilement, que malgré le fait que François Legault se dise le parti des régions, le parti des campagnes, le parti de l'extérieur des grands centres, elle reproche notamment que François Legault centralise le pouvoir, que ce soit tout dirigé à Québec ou à Montréal. Clic santé, ça clique. le tableau de bord de feu Bernard Drainville pour l'éducation. Donc, que toutes les décisions soient prises à la même place, au centre, que tout soit centralisé, qu'on ne consulte pas les régions, que le Conseil des ministres soit à majorité tirée des grandes villes. Il y a 5 ministres en ce moment qui viennent tous de la capitale nationale élargie. Bernard Drainville, Martine Biron, Geneviève Guilbeault, Jonathan Julien et celui que j'oublie qui est d'arrière-ban. Mais tu sais, ils sont plusieurs à quand même venir de la région de Québec. Et il n'y en a aucun à Gaspésie-les-Îles. François Legault s'est attribué lui-même l'Abitibi parce que Pierre Dufour de l'Abitibi avait dit « C'est pas normal qu'il n'y ait personne de l'Abitibi. En moins, tu veux chialer, t'es dehors, toi, avec. » Fait que, tu sais, partie des régions, c'est un peu compliqué. Et en même temps, ils ne peuvent pas en avoir de Montréal parce qu'ils n'ont personne d'élu de la CAQ dans Montréal en tant que tel. Sinon, ben, c'est Terrebonne, c'est la Rive-Nord. C'est la Rive-Sud, mais tu sais, dans Montréal en tant que tel, c'est partagé entre le Parti libéral et QS. Ah non, c'est vrai. Non, puis en fait, Fitzgibbon, c'était Terrebonne, puis ils l'ont perdu. Fait que même ça, le Montréal le plus proche. Mais voilà, elle est partie en faisant le plus de reproches possible, ce qui est chien mais légal, mais tu sais, voilà. Donc François Legault l'a évidemment, bien sûr, mal pris. Et ils étaient tous un petit peu... pas inquiet, mais ils étaient tous un peu fâchés. Parce qu'essentiellement, ce que Maïté a fait, c'est que le message qu'elle a lu lors de sa démission, c'était sensiblement le même qu'elle a lu devant tous les autres caquistes. Et puis, semblerait-il que lorsqu'elle a terminé la lecture de son discours d'adieu de justement François Legault commençait à penser à la relève puis lâcher les grands centres. Elle a juste terminé son discours. Elle a dit merci, je vais vous laisser discuter. Et elle serait partie. Donc, elle n'a pas eu la rétroaction des autres. On peut soupçonner que François Legault n'était pas de bonne humeur. Mais voilà. Réaction vendredi matin, ben c'est ça. François Legault rejette les critiques de Maïté Blanchette-Vézina et tente de relativiser le départ de son ex-ministre, parce que, bien sûr, elle est seulement déçue de ne plus avoir sa job. Il ne faut pas tenir compte de tout le reste. C'est juste parce qu'elle est fâchée de ne plus avoir sa job. Comme tous les premiers ministres qui font un remaniement, quand on démet des ministres, il y a toujours un risque que ça finisse mal. Il reste qu'une sortie comme celle de Maïté est plutôt exceptionnelle. Je veux dire que quand la porte, elle a appelé. Legault a démissionné. C'est la première attaque directe et cinglante contre François Legault en tant que tel, parce qu'habituellement, ben, c'est ça, on dit que c'est pour des décisions personnelles, c'est pour la famille, c'est parce qu'on veut prendre du temps pour soi. Mais là, elle l'a vraiment clairement dit, c'est parce que je n'ai plus confiance en François Legault. Fait que c'est sûr que ça fait un petit peu moins place à l'interprétation. Voilà que dans son cas, elle, c'est bon, parce que ça n'entretient pas de flou, de être fâché de ci ou de ça. Évidemment, si elle était encore ministre des Ressources naturelles, elle n'aurait peut-être pas fait une sortie aussi fracassante que celle-là avec François Legault. Mais reste que la question se pose malgré tout. Et ce ne serait pas surprenant qu'il y en ait d'autres qui feraient la même chose, mais on va tenter de gérer le plus possible à l'interne, c'est probablement. Il s'est dit vraiment heureux puisqu'il annonce... c'est quoi? OK. Au contraire, je pense qu'il n'y a jamais un premier ministre qui a fait autant d'annonces en région, a répliqué M. Legault, sans fournir une preuve à ce sujet, comme si ses conférences de presse en région justifiaient le fait que... Il était un gouvernement des régions. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Il s'est dit vraiment heureux, puisqu'il annoncera d'ailleurs ce vendredi l'octroi d'un bloc d'énergie au bénéfice d'un projet minier qui créera 1600 emplois à Malartic. Eh bien, il a balayé les critiques sur l'absence d'un ministre dans la région de l'Abitibi. Il a décidé de prendre en charge lui-même la région au grand complet, dont les citoyens seront bien servis, selon lui. Et ça, il disait ça en entrevue à la radio de Rouen, vendredi matin, parce qu'officiellement, il est devenu le député de l'Abitibi, même s'il est le député de l'Assomption, toujours dans le très, très grand Montréal, Laurentides-de-la-Naudière. Mais reste que ce bureau-là de François Legault est quand même plus proche que le précédent bureau du député de l'Abitibi qui était Jean Boulay à Trois-Rivières. Fait qu'on sauve quand même un 2h30 de char entre le bureau de Jean Boulay et celui de François Legault au sortir des parcs du parc de la Vérendrye. Pas de la Vérendrye, mais du parc de l'Abitibi. C'est à y penser, là. On l'avait calculé quand Jean Boulay avait été, avait été nommé. C'était comme 8-9 heures de char. Là, ça va être seulement 7h30-8 heures. C'est une grosse économie pour les gens de l'Abitibi s'ils ont besoin d'aller parler à leurs députés de la région. Ben, en tout cas, leurs grands députés de région. Faut y penser. Faites courte pause. Au retour, on fait un peu de cinéma sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Favel, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Bonne annonce tout de suite d'un film qui prend l'affiche cette semaine, « Mille secrets, mille dangers » de Philippe Falardeau et Alain Farah.
Ah, demain, le grand jour, les enfants.
Non, Farah, non.
Alain Farah, t'es-tu en train de choquer?
Non. Le mariage avec toi, c'est la plus belle chose qui m'arrive en ce moment.
Tu vas avoir une journée formidable.
Regarde-moi pas de même.
Tu m'as dit qu'à mon mariage, t'allais me louer une Mustang Shelby blanche décapotable.
Tous les carrosses mènent à Rome, non?
Mais qu'est-ce qui se passe? Tabarnak!
Let's go, j'ai pas envie que mes parents se croisent.
Alain?
Allô?
Tôt
ou tard, ils vont se croiser, hein?
C'est comme ça pour nous dans cette vie.
Un mariage, c'est une chance de faire la paix.
T'as gâché la journée la plus importante de ma vie, Toti.
T'avais pas besoin de moi pour ça.
Alain, wake up.
Aluna, j'ai besoin de te parler, Habibi.
Je vais encore mourir, c'est sûr.
Trois tables d'honneur, Beyrouth, pour Yolande. Addis Abeba pour la famille à Virginie.
Addis Abeba? Chris, on vient de la Mauricie.
Shawinigan!
Le problème avec toi, Alain, c'est que tu as oublié d'où tu viens.
Je viens de Ville-Saint-Laurent.
J'aime pas parler de religion.
Tu es un peureux. Et c'est à cause de gens comme toi que les barbus nous empêchent de monter les sapins de Noël.
Je veux que tu saches qu'on a eu des jours sereins.
Ton père, lui, il savait bien le faire. J'espère que tu lui as dit que je fréquente des hommes.
J'ai surtout dit que je m'inquiète pour toi et à maman.
Rapporteur! Mais tu travailles pour le Mossad ou quoi?
On n'avait pas besoin de s'embarquer dans une patente compliquée de même.
Pourquoi ne pas profiter de cette journée pour te dire des choses que je ne t'ai jamais dites? Tu as longtemps été désiré, mon fils.
Le père est passé?
Je suis fier de toi.
Et tu demeures aujourd'hui, et malgré tout, le fruit de notre amour. Alain, réussis ce que je n'ai pas réussi. Comble ce que je n'ai pas su combler. Aime autant que j'ai aimé.
La pression est bonne.
La pression est bonne.
Il a peut-être fait un malaise cardiaque.
Non, maman.
Yolande, s'il te plaît.
Alors, bande-annonce un peu trompeuse, peut-être, diront certains, parce que c'est pas... on dirait que c'est un mariage à la grecque, tu sais, les trois films, qui... tout va mal aller dans ce mariage-là, mais c'est une toile de fond, le mariage. Essentiellement, c'est plus l'anxiété d'Alain Farah qui sera... démontré, j'ai envie de dire, mais bon, allons-y pour le résumé, qui lui aussi en dit beaucoup sur le site de Mediafilm. En route vers l'oratoire Saint-Joseph, à bord de la remorque de son cousin Édouard, Alain est retardé par un embouteillage afin de surmonter le stress en ce jour de son mariage qui doit réunir dans la même pièce son père et sa mère à couteau tiré. Alain avale les anxiolytiques comme des bonbons. Atteint de la maladie qu'on ne dira pas, ben c'est un punch, oui et non. Mais aussi hypochondriaque et névrosé, il affronte les imprévus et les déceptions avec la force qui ira... et les déceptions avec une force qui ira décroissante tout au long de la journée. Mauvaise formulation. Son épouse, Virginie, les idées froides, le soutient dans les épreuves, corsé par les gaffes et les faux pas d'Édouard, son cousin, on le rappelle, qui vient de renouer avec... non, ça, c'est un divulgacheur. Un malentendu va lui faire croire que ce dernier est en route pour le... Ah, je viens de le dire. Bon. c'est ça. Fait que j'aime pas le résumé de Mediafilm parce que c'est un peu un punch du film, mais en même temps, ceux qui ont lu le livre, comme au début... Parce que j'ai tenté d'écouter la version audio avec Manny Soleiman-Loup qui fait la narration du livre. Puis me semble que c'est vraiment au début du livre, tandis que dans le film, ça arrive plus vers la fin. Donc, on comprend le bout de nervosité de Alain Farrow au travers de ça, mais en même temps, au début du mariage, qu'il soit nerveux parce que cet événement-là arrive après. Fait que, voilà. Donc, c'est un film qui est très, très dense. Je l'ai vu au début de la semaine. C'est un film de 2 heures. J'étais encore un peu intrigué si... j'ai pas haï ça, mais il y a beaucoup de choses dans ce film-là. Parce que, un peu comme dans le livre, tous les événements se passent pas nécessairement dans l'ordre chronologique des événements parce que, bon, on s'en va à... par exemple, entre l'orange julep où il va chercher des frites et l'oratoire, dans ce parcours-là, pogné dans le trafic, il va se remémorer sa journée, il va se remémorer la veille, il va se remémorer 2 jours avant, la semaine avant, puis au travers de l'histoire au grand complet, on se rappelle de quand il était jeune, avec son cousin, justement, les 400 coups qu'ils ont fait. C'est ça, les relations qu'il y avait avec les amis au secondaire, etc., etc. Puis, c'est vrai, au début du mariage, quand ils s'en vont au mariage, son cousin parle du gars qu'il aime pas parce qu'ils vont investir dans un bâtiment. C'est vrai, c'est avant le mariage. Fait que voilà, essentiellement, sa nervosité vient aussi par le fait que son cousin, lui, remémore des mauvais souvenirs. Ces mauvais souvenirs-là, on va finir par y arriver dans le film aussi. Mais c'est ça, c'est comme tout est un petit peu mélangé dans l'histoire parce qu'il est nerveux, parce qu'il est anxieux, parce que justement, il file pas, il est sous le gros stress. Ben un peu comme quelqu'un qui va être anxieux, ses idées vont se mélanger dans sa tête. Donc, le film, les idées vont être un peu mélangées. Il y a une trame continue quand même, là, du début de la journée du mariage jusqu'à la fin de la réception. Mais au travers de cette séquence-là, on retourne dans le passé, on va dans l'avenir. On va un peu plus tard dans les événements, mais ensuite on va revenir dans le passé. Je pensais au début, je trouvais ça habile qu'on avait sauté le mariage parce qu'il était supposé se passer à l'oratoire Saint-Joseph. Je me disais, c'est habile, on saute le mariage. Fait qu'ils n'ont pas besoin de tourner à l'intérieur, ils ont juste à se mettre dans les marches et dans la titre. Fait que je pensais que c'était comme un truc pour sauver de l'argent, mais non. Plus tard dans le film, on est dans l'oratoire Saint-Joseph, on est dans la sacristie, on est dans tous les lieux importants de l'oratoire. Fait qu'ils vont quand même dans le mariage parce qu'il faut qu'on comprenne pourquoi après ça, Alain, il est fâché avec son cousin parce que pendant le mariage, il est arrivé quelque chose. Fait que tu sais, tous les événements vont finir par se placer. Tu sais, on finit par avoir une ligne du temps un peu complète. Mais c'est le genre de film qu'on réécoute peut-être une deuxième puis une troisième fois parce que justement, on l'entête, les événements. On découvre pas nécessairement les trucs un après l'autre. On fait un peu tout ça. Tu sais, on comprend... Le grand portrait, et en le réécoutant, on fait comme « Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi qui est arrivé, puis ça aussi. » Puis ce que je trouvais aussi particulier, c'était que, ben, comme l'action dans le livre, et surtout avec l'âge d'Alain Farah, ben, comme il y a 40-quelques ans, son mariage, c'était quand il y en avait 26, fait qu'on aurait pu s'attendre à ce que le film se passe en 2005. Des reconstitutions de 2005, il y en a quand même quelques-unes encore aujourd'hui, puis je trouvais drôle qu'on ait tout transposé ça en 2024. Fait que, tu sais, il y avait donc, tout était décalé pour que tout se passe dans les années d'aujourd'hui. Donc, son adolescence était dans les années 90, mais là, il était rendu début 2000. Fait que, tu sais, tout était un peu décalé. Fait que quand il se marie dans la vraie vie, son personnage de lui qui a 14 ans est à la même place au lieu d'en avoir 28. Fait que tout est comme décalé de 10 ans. Fait que je trouvais ça particulier qu'on ait choisi cette esthétique-là moderne au lieu d'être à l'époque. Fait que c'est une adaptation, mais adaptation au goût du jour. Bref, c'est mon œil qui a remarqué certains éléments qui étaient plus actuels pour ce qui aurait dû être pour 2005. Mais même à ça, il y a certains petits trucs qui étaient... En tout cas, ça, c'est mon œil à moi, mais c'est pas ça qui dérange dans le film non plus. Fait que ça vaut la peine d'aller le voir, oui, Mais ce sera une excellente occasion de le revoir en reprise également à Radio-Canada. Après, tout le monde en parle dans 2 ans. Ici à Radio-Can, quand il va passer en cinéma de fin de soirée le dimanche soir et ou sur RTV dans 2 ans aussi, quand il sera les grandes soirées Falardeau qui vont enchaîner Monsieur Lazare et Mille secrets, mille dangers. Fait qu'il vaut la peine d'être vu sur grand écran. T'sais, c'est quand même très drôle, même si c'est des sujets qui sont très sérieux. T'sais, l'anxiété, puis tout ça, le stress, l'émotion, etc. Fait que ça, c'est bien représenté. La partie humour a été surtout dans la bande-annonce. Maintenant, j'ai envie de dire, comme toutes les gags sont pas mal ceux-là qu'on va retrouver dans le film. Et mais sinon, tu sais, ça vaut la peine quand même d'être vu sur grand écran. Et je trouvais aussi drôle qu'adolescent Alain soit plus grand qu'adulte Alain, mais ça arrive, des poussées de croissance dans l'été. Mais voilà. Donc, mais sinon, c'est intéressant, mais c'est peut-être un film qu'il faut décanter, qu'il faut avoir vu une deuxième fois, peut-être pour l'apprécier davantage. Si vous avez les moyens d'aller le voir 2 fois au cinéma, allez-y 2 fois. C'est toujours bon pour le cinéma québécois d'être encouragé. Ça, c'est sûr et certain. On fait une courte pause. Au retour, la conclusion de l'émission de cette semaine sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Gabouchard en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Finalement, il me reste un petit peu moins de temps que je pensais, mais très rapidement, aux États-Unis, ça continue de super bien aller. Et cette semaine, c'est Jimmy Kimmel qui a fait les frais de l'administration Trump parce qu'il avait fait un gag odieux sur Charlie Kirk lors de son émission de lundi passé. Et en représailles, l'équivalent du CRTC américain, le FCC, je pense, le Federal Broadcast Commission, un enfant de même. Donc, le CRTC américain, son directeur a dit que c'était inacceptable que des propos tels que ceux de Jimmy Kimmel soient tenus sur des ondes aux États-Unis, que CABC ne faisait rien, il fallait qu'il sévisse. Et en prenant la chienne, les distributeurs d'ABC aux États-Unis ont commencé à dire que l'émission de Kimmel serait remplacée par des documentaires plus de nouvelles ou carrément des documentaires en hommage à Charlie Kirk à la place de jouer Jimmy Kimmel dans sa case de 22h30, 11h sur ceux qui repassent ABC. On n'a pas vraiment d'équivalent au Canada pour ça, mais c'est comme si, par exemple, Radio-Canada, TVA et TQS, ça c'est drôle, nouveau, devait être possédé par quelqu'un pour pouvoir les jouer dans une région. Fait que c'est comme si Nouveau Sherbrooke et TVA Sherbrooke appartenaient à la famille Bélanger. Bon, ben eux autres décidaient que le tricheur, ça jouait plus, puis que Occupation Double, ça jouait plus. Fait que, mais qu'ils allaient mettre d'autres choses. Fait que c'est un peu ce que les diffuseurs américains font dans, entre autres, la Floride puis Los Angeles. Ils ont dit, nous autres, on ne jouera plus Jimmy Kimmel. C'est ça, il n'y a pas d'équivalent au Québec, mais c'est pour ça que c'est un peu dur de faire l'équivalent. Mais à la place, comme justement le grand patron qui a déjà dit il y a 5 ans que la censure n'avait pas sa place aux États-Unis, a dit qu'il y allait avoir des répercussions si Jimmy Kimmel ne s'excusait pas et que si il n'y avait pas des mesures qui étaient prises. Bon, ben Disney, qui possède ABC, a pris peur et a rencontré Jimmy Kimmel pour le suspendre dans les jours qui ont suivi. Donc, il était sur le bord d'enregistrer son émission du mardi ou du mercredi. Puis, c'est ça, ils l'ont escorté à l'extérieur de ses studios parce qu'il n'y aurait pas d'émission. Et Jimmy Kimmel puis Donald Trump ne se sont jamais particulièrement bien entendus. Là, quand Jimmy Kimmel animait les Oscars, Donald Trump tweetait que Jimmy Kimmel était nul à chier, mais ça, c'est les mots du président. Puis l'équivalent. Mais tu sais que Jimmy Kimmel était sans talent, qu'il était le pire animateur de tous les temps, que c'est pas normal qu'il anime les Oscars, etc., etc. Puis Jimmy Kimmel avait répondu, « Mon Dieu, comment ça que Donald, il écoute encore passer son heure de coucher? » Des choses comme ça. Fait que tu sais, ça n'a jamais été le grand amour, particulièrement entre les deux. Et comme par hasard, on s'est servi du prétexte que Jimmy Kimmel avait effectivement parlé de Charlie Kirk lundi, mais il n'a pas parlé de Charlie Kirk en mal. Ce dont Jimmy Kimmel a parlé lundi, c'était qu'il parlait du tueur de Charlie Kirk. Fait qu'il parlait même pas du gars, il parlait du tueur de Charlie Kirk en disant que les MAGA avaient tout fait pendant la fin de semaine pour s'en dissocier le plus possible, pour essayer de faire en sorte que le tueur devienne miraculeusement un partisan de la gauche, un démocrate, un trans qui allait devenir toutes les affaires que les MAGA n'aiment pas. Et essentiellement, c'était ça le propos de Jimmy Kimmel, que sa gang avait fait en sorte que ça ne soit pas associé à eux, même si le tueur venait d'une famille mormone, qui était blanc, qui était jeune, que sa famille votait MAGA, que le père shérif du tueur, donc des forces de l'ordre, qui votait Trump depuis le début, que c'était leur homme, que bon, il appartenait pas à eux autres parce que peut-être il serait en relation avec un trans, ce qui n'a jamais été réellement confirmé non plus, mais que depuis les 6-7 derniers mois, il était rendu super à gauche, soudainement, parce qu'il sortait avec un trans. Mais bon, ça, encore une fois, ça n'a jamais été prouvé, ou en tout cas, il n'y a jamais de sources crédibles qui l'ont vraiment affirmé. Et surtout, ce que Kimmel avait fait, c'était qu'il s'était moqué de Donald Trump, qui avait eu la compassion d'un enfant qui perd son poisson rouge. C'était ça, le gag. Parce qu'on, quand on avait demandé à Donald Trump ce qu'il pensait de comment il allait suite à la mort de Charlie Kirk, qui avait dit « Ça va, mais regardez, ma salle de bal est en train d'être construite. » Ce qui, effectivement, manque beaucoup de tact et de gentillesse, on va dire ça comme ça, quand son meilleur ami est mort. Mais voilà, donc, conséquence, Jimmy Kimmel a été retiré des ondes. Pourquoi? Parce qu'il a osé parler contre Donald Trump. Et c'est pas un hasard, parce que même lorsqu'il revenait de Londres, parce qu'en plus, à côté de Keir Starmer, où Gene Evans avait déjà dit que la liberté d'expression était en perdition à Londres, Donald Trump s'était réjoui verbalement, autant sur Truth Social que dans la vraie vie, que Jimmy Kimmel perde sa job parce qu'il était poche et non pas parce qu'il avait osé parler contre lui. Tout ça en ne disant rien sur Charlie Kirk, comme il essaye de prétendre, comme si Jimmy Kimmel l'avait dit en pleine télé, bien fait pour lui, ce qui n'est pas du tout le cas. Il s'était d'ailleurs prononcé sur ses réseaux sociaux en offrant ses condoléances à la famille de Kirk et qu'il n'aurait pas dû mourir pour ça. Kimmel, ça, fait qu'il n'avait jamais parlé en tant que tel contre Kirk. Il avait parlé contre les MAGA qui essayaient de faire passer le tueur pour pas un MAGA, mais on n'avait pas de preuve non plus s'il l'était encore ou non. Fait que Donald Trump a dit, voilà, à bord d'Air Force One, que les chaînes qui parlaient contre lui devraient subir les conséquences de parler contre lui aussi. Donc, ça ne va pas bien aux États-Unis pour la liberté d'expression. Et évidemment, les shows restants ont été sur la pointe des pieds tout au long de l'émission d'hier parce qu'ils ne voulaient pas se faire censurer. C'était le gag à peu près unanime. Mais voilà, donc, ça va très mal aux États-Unis. C'est la fin pour aujourd'hui pour l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service sur les ondes de CFAX, sur les ondes de Chiz. Bye-bye.